Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons philosopher. Mais rassurez-vous, comme je n'y connais pas grand-chose, je vais garder notre invité sur des chemins faciles pour nous, pauvres auditeurs moyens. Mon invité est le professeur Carsten Lehmkuhler, professeur de philosophie et d'éthique à la faculté protestante de Strasbourg, qui a écrit en 2019 « Les vertus de la vérité » et qui vient d'écrire un nouveau livre, mais que l'on doit attendre un peu. Alors, bonjour Carsten, je ne me suis pas trompée dans votre biographie.
Bonjour à toutes et à tous. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Je précise que je suis professeur de théologie avec la spécialité éthique à la faculté de théologie protestante à Strasbourg.
Alors, on va parler de la vérité, des vertus justement de cette vérité et puis parfois des problèmes de la vérité. Alors tout d'abord, vous définissez la vérité comme ayant quatre vertus. Alors, l'exactitude, la sincérité, le courage et la prudence. C'est bien ça, et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces quatre vertus?
Oui, donc tout d'abord, souvent on essaye de définir la vérité de façon très philosophique, on parle de différentes théories de la vérité, et moi j'ai choisi une autre approche, de réfléchir plutôt sur les caractéristiques, les capacités d'une personne humaine pour arriver à une vie en vérité. Et là, on tombe sur des caractéristiques très concrètes. On appelle ça des vertus, mais c'est un mot un peu ancien. On peut aussi dire des traits de caractère. Et comme vous dites, j'en distingue les quatre que vous avez mentionnés, donc l'exactitude, la sincérité, le courage et la prudence. On aura sans doute occasion de préciser un petit peu ces quatre vertus.
Alors, oui, vous dites la vertu et vous parlez d'éthique de la vertu. Alors, l'éthique, on peut définir rapidement aussi pour... c'est un mot qui est un peu connoté, un peu religieux. Comment vous pouvez le définir simplement?
Oui, certains prennent le mot éthique comme synonyme au mot moral. Moi, je propose de définir l'éthique plutôt comme une réflexion sur la morale. Donc, nous avons tous... des valeurs morales que nous avons, que nous portons en nous, et l'éthique est une réflexion sur ces valeurs qui nous habitent.
Et en tant que protestant, en tant que théologien, vous voyez cette comme une manifestation de la sanctification de l'homme gracié par Dieu, et non pas comme un résultat de nos œuvres.
Oui, là vous allez déjà très loin en faisant la différence entre une approche un peu plus laïque, philosophique et une approche théologique. J'aimerais souligner d'abord que toute la réflexion sur les vertus de la vérité est une réflexion qu'on peut mener sur le plan philosophique ou sur le plan humain tout simplement. Donc on n'a pas besoin de la religion pour arriver à une réflexion profonde sur ces vertus. Mais après, on peut bien évidemment dire que la théologie se saisit de la même problématique. Et là, en effet... la notion de la grâce, de l'aide de l'esprit entre en ligne. C'est clair que là, on parlera de cela. Et là, mon point est qu'on est dans une doctrine à propos de la sanctification, donc la vie concrète du chrétien, comment cette vie du chrétien ou de la chrétienne peut être forgée par la notion de la véracité, de la sincérité, en fonction de ces quatre vertus.
Parce que le Christ, vous le dites, hein, l'affirme dans Jean, il dit « la vérité vous rendra libre ». Donc la vérité, ce n'est pas seulement quelque chose qui s'adresse à l'autre, un devoir par rapport à l'autre, mais c'est aussi un devoir par rapport à soi-même, si je comprends bien.
Exactement. Ça, pour moi, c'est même un point essentiel. Je trouve que toute la réflexion sur la vérité et sur la véracité commence... en réfléchissant sur le rapport à soi-même. Donc on peut être véridique ou non avec soi-même. C'est une thématique très très traitée en philosophie. Je cite à titre d'exemple le grand philosophe Jean-Paul Sartre qui a écrit un chapitre entier sur la notion de la mauvaise foi qui pour lui est un rapport à soi. Donc on peut, selon lui, d'une certaine manière, se mentir à soi-même. Et je pense que les autres sujets, donc la vérité par rapport à autrui, dans les relations humaines, voire même la vérité dans nos sociétés, dépendent de ce premier champ d'investigation qui est le rapport à soi. En effet, ça c'est une thématique très très importante en philosophie, mais aussi en théologie. Et si vous dites, vous citez Jésus et cette parole importante, la vérité vous rendra libre, bon, cette parole a sans doute un sens théologique très particulier. Nous savons que Jésus peut aussi dire que lui-même est la vérité, mais abstraction faite de ça, on peut dire que, en effet, on peut s'attendre à un effet libérateur de la vérité pour soi-même. Et cela est vrai déjà sur le plan psychologique. Hein. Les psychologues nous disent aussi qu'on peut tomber dans des attitudes de refoulement, etc., et que parfois, mais pas toujours aussi, mais parfois, un nouveau accès à la vérité vis-à-vis de soi-même peut être libérateur.
Et est-ce que ce qu'on appelle la confession des péchés, dans le jargon théologique, est-ce que justement c'est d'essayer de trouver la vérité par rapport à soi-même ?
Voilà, ça c'est une question fort intéressante, parce qu'en effet, la tradition chrétienne à un lieu sociologique où la question de la véracité par rapport à soi-même émerge avec nécessité, et c'est cette vieille question de la confession des péchés, où dans le monde catholique, on parle aussi de la pénitence, le sacrement de la pénitence, etc. Et même sociologiquement, même dans la perspective sociologique, c'est fort intéressant de regarder un petit peu comment ce sujet est élaboré en théologie. La pénitence, à l'époque médiévale, a été définie en fonction de différentes phases. Et une phase importante, c'est la contrition. Hein, donc, il faut vraiment regretter ses péchés, sinon ça marche pas. Et cela a mis les gens dans une difficulté importante, à savoir, est-ce que ma contrition est vraie? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est suffisamment profonde? Et là, entre en jeu ce que vous avez appelé en début de notre entretien, les œuvres. On peut là tomber dans des œuvres de pénitence très, très lourdes et difficiles à supporter. Et là, au moment de la réforme, Luther, Calvin ont critiqué cette démarche d'un auto-examen scrupuleux en disant ce ne sera jamais suffisant. Ta manière de regretter tes péchés, ce ne sera jamais suffisant. Donc il faut que tu quittes ce plan des œuvres et que tu te tournes vers la grâce en disant je confesse mes péchés, ce ne sera jamais suffisant, aussi ma contrition ne suffit pas, mais je m'abandonne dans les mains de Dieu. Et moi j'aime appeler ça une manière de dédramatiser le rapport à soi. Donc, je pense que c'est important de réfléchir sur le rapport à soi, mais à un certain moment, il faut aussi le dédramatiser. En théologie, on appelle ça trouver la grâce, hein, de s'abandonner dans les mains de Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes.
J'aime bien ce terme de dédramatiser. Effectivement, je connaissais trouver la grâce, mais c'est effectivement très connoté religieux. Par contre, dédramatiser, c'est un terme qui peut parler à tout le monde. Et je trouve ça, ce terme, bien vu. Alors, donc, il y a trois grands blocs. Donc, vous venez de le dire, par rapport à soi, on vient d'en parler. Entre les humains, dans les relations presque de tous les jours. Et puis, par rapport à la société. Alors, je voudrais qu'on voit le deuxième bloc, c'est-à-dire entre les humains, comment la vérité doit s'imposer, pourquoi et comment.
Oui, là, nous entrons dans un champ de questionnement très, très travaillé. C'est toute la question de la vérité dans les rapports à autrui. Et donc, en gros, une première grande question, c'est la question « dois-je toujours dire la vérité ?» C'est une vieille question. On la trouve déjà chez Augustin, père de l'Église, 4e, 5e siècle. Et lui, il avait une position radicale. Il a écrit deux ouvrages sur le mensonge et sa réponse est « oui, il faut toujours dire la vérité ». Il dit ça avec certains scrupules parce qu'il nous cite tous les exemples que nous connaissons aussi dans le débat actuel Il parle du médecin au pied de la personne malade. Est-ce que là, vraiment, nous sommes dans l'obligation de dire toute vérité? Il parle même aussi du meurtrier qui frappe à la porte et qui veut avoir la main sur la victime possible. Et moi, je suis à la porte et je dois dire oui ou non. Est-ce que la victime se trouve chez moi? Et il lutte avec ces questions. Parfois, il se contredit même, mais finalement, il dit toujours, il faut dire la vérité. Et sa raison est que, le mensonge, je cite, le mensonge tue l'âme. Donc, il est plutôt dans une réflexion sur soi-même, là aussi. Donc, je dois la vérité à autrui, mais le fait de mentir, c'est d'abord un problème que j'ai avec moi-même. Et c'est une atteinte à mon propre âme, selon lui. Donc, mon âme en souffre. Et puis, il voit aussi le problème que nous appelons aujourd'hui le problème de la pente glissante. Il dit que lorsque je commence à mentir, je vais toujours mentir de plus en plus. Et si je me donne des critères d'exception en disant oui, parfois il y a quand même une exception importante, la liste des exceptions ne cesse de grandir. Et je finis par mener une vie dans le mensonge. Donc, sa réponse est radicalement oui, il faut dire la vérité à autrui. Et cette question, cette réponse, on la retrouve beaucoup plus tard chez Emmanuel Kant, le grand philosophe allemand des Lumières, qui dit exactement la même chose. Et il prend notamment cet exemple du meurtrier devant la porte et il dit, il faut dire la vérité. Au nom d'une obligation humaine, générale, de rester dans la vérité. D'un autre côté, cette position d'Augustin de Kant a été vivement critiquée par d'autres philosophes. Kant discute d'ailleurs avec un philosophe français qui s'appelle Benjamin Constant et qui avait déjà vivement critiqué cette position de Kant. Donc cette autre position dit que on doit la vérité seulement à des personnes qui méritent la vérité. Donc il y a des personnes qui ne méritent pas la vérité et sans aucun doute, le meurtrier devant la porte en fait partie. Voilà. Et après, il y a une sorte de casuistique qui se met en place. Donc on fait des groupes de cas où cette obligation de dire la vérité n'a plus de poids. Donc c'est pas seulement le meurtrier, c'est aussi, par exemple, la personne très vulnérable, qui probablement préfère que je ne dise pas la vérité, et d'autres groupes encore. Voilà, donc là, il y a cette autre réponse qui, je pense, aujourd'hui est dominante. Donc, vous trouvez, me semble-t-il, rarement des éthiciens de nos jours qui défendent une obligation totale de véracité dans toute situation imaginable.
Oui, parce que les exemples que vous avez donnés, effectivement, il faut dire la vérité pour ne pas se mettre soi-même dans un mensonge, pour garder d'une certaine façon son intégrité, mais ça fait beau jeu de la personne qui est en face. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez cité aussi Dietrich Bonhoeffer, donc à l'époque du nazisme. Je suppose qu'il avait peut-être une autre opinion parce que c'est bien facile. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir justement, un peu comme l'égalité, on est libre à condition de ne pas faire du mal à l'autre, à condition de ne pas empiéter sur la liberté de l'autre. Est-ce que là, il n'y a pas aussi des éthiciens qui disent on doit dire la vérité, sauf si c'est l'autre qui est victime? Je pense à la résistance, je pense à... Alors, est-ce que justement Bonhoeffer en parle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui parlent de ça?
Merci beaucoup, c'est un très bon exemple. L'éthicien Dietrich Bonhoeffer, nous sommes au XXe siècle, la période des nazis, il a d'ailleurs été tué par les nazis tout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et il nous a laissé un tout petit texte, seulement de quelques pages. Le lecteur français le trouve à l'intérieur de son éthique, comme une sorte d'annexe, et ce petit texte d'une dizaine de pages maximum, je pense encore moins, s'intitule « Que signifie dire la vérité ?» Point d'interrogation. Et dans ce petit texte, il problématise exactement la question que vous posez et il critique en tant que théologien et avec des arguments théologiques, il critique vivement la position de Kant que j'ai dessinée en disant des telles vérités absolues que j'adresse au vis-à-vis sans aucune considération à propos de la situation concrète des personnes engagées, c'est une vérité satanique. Donc c'est diabolique, hein, c'est une vérité, on pourrait presque dire une vérité mensongère, parce que, donc un oxymore. Parce qu'avec une telle vérité, je nie toutes les relations dans lesquelles je me trouve, les personnes que je dois protéger. Et théologiquement, il faut dire que c'est faux, cette position d'être dans une obligation totale de véracité. Il précise cela aussi en donnant un exemple de tous les jours. Un professeur demande à un enfant à l'école, devant la classe, est-ce qu'il est vrai que ton papa rentre ivre tous les soirs? Est-ce qu'il a un problème d'alcool? Et l'enfant dit non devant la classe, sachant que son papa a vraiment un problème d'alcool. Et Bonhoeffer dit, l'enfant, avec les moyens qui sont les siens, et aussi face à l'hiérarchie qui existe entre le prof et l'enfant, a bien fait. Il a donné plus de poids à la protection de la sphère privée de sa famille au détriment de la véracité à ce moment-là. Donc ça, c'est un exemple célèbre qu'il donne dans son texte. Et son argument, encore une fois, est théologique. Il dit, nous, en tant que chrétiens, nous vivons, notre foi souligne l'incarnation, donc le fait que le Christ est devenu homme, et ça implique aussi que le Christ se trouve dans toute la condition humaine, y compris les relations, la vie concrète. En tant que chrétien, nous assumons la vie concrète telle qu'elle se présente à nous. Et cela nous oblige à bien réfléchir. À vrai dire, pour revenir à la question des vertus, il fait ici l'éloge, sans le dire, de la vertu de la prudence. Donc j'ai énuméré les quatre vertus, et la dernière, c'est la prudence, c'est-à-dire nous devons réfléchir, nous devons mesurer les situations concrètes et notamment les relations qui dépendent de ma décision.
Alors, on a parlé donc de Saint-Augustin, on a parlé de Kant, on a parlé de Dietrich Bonhoeffer, mais il y a aussi dans les lettres de Paul, dire la vérité dans l'amour. Alors, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? Est-ce que, justement, cette notion d'amour qui met en plus dans le circuit par rapport à la vérité, est-ce que ça veut dire qu'il faut prier pour la victime tout en la dénonçant, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Je donne cet exemple un peu frappant pour remettre sur le débat qu'on vient d'avoir.
Je pense que cette formule célèbre du Nouveau Testament, dire la vérité dans l'amour, renvoie précisément à cette réflexion prudentielle en mettant en avant deux valeurs. Donc la vérité qui est une valeur fondamentale respectée par la foi chrétienne, et en même temps la valeur de l'amour qui elle aussi est fondamentale, ou qui il est aussi fondamental. Et donc la prudence consiste à mettre en dialogue ces deux valeurs. Par exemple, au pied du malade, du lit du malade, se demander, est-ce que je dois dire cette vérité? Peut-être la réponse est oui. Hein, aujourd'hui, le médecin est aussi tenu à l'information correcte vis-à-vis de son patient. Mais même si la réponse est oui, comment dirais-je cette vérité? Est-ce que je peux la dire de façon douce, avec des précautions? Donc, on n'est pas seulement dans le noir et blanc, donc dire ou non une vérité, on est aussi dans la forme de dire la vérité. Et là, j'aimerais citer un autre exemple que je traite aussi dans mon livre. Ce sont les relations étroites, donc entre deux partenaires, entre deux amis. Même dans des relations les plus profondes et les plus étroites, comme un couple par exemple, la question reste entière, hein, de dire la vérité dans l'amour. Aussi pour un couple ou pour deux amis, cette question se pose. Il y a pour chaque être humain aussi une sorte d'espace sacré où toute personne a droit au mystère. Et je ne peux pas de façon brutale pénétrer dans cet espace. Il faut là aussi qu'un dialogue entre vérité et amour s'installe dans les relations proches. Si je peux tout de suite continuer, là on a beaucoup parlé de la prudence, mais il y a encore aussi la vertu du courage. Et ça, c'est aussi important. Parfois, la vérité a un prix. Et parfois, en opposition ou en tension avec ce qu'on vient de dire, parfois, je dois oser dire la vérité. Aussi dans les relations étroites et aussi en société, par exemple. Et cette vérité peut avoir un prix. Donc, moi, je me suis beaucoup inspiré d'un petit bouquin de Václav Havel, l'ancien président de la République tchèque, qui a écrit un petit ouvrage sur la véracité et qui raconte comment dire la vérité dans un système de dictature peut avoir un prix. Donc, vous voyez, la prudence peut m'amener parfois à ne pas dire la vérité ou à la dire doucement, mais parfois aussi la prudence peut m'amener à opter pour cette autre vertu qui est le courage. Et ce sont des moments où je me dis, maintenant, il faut que je dise cette vérité, même si elle coûte, même si elle va me créer des problèmes. Donc, tout dépend ici de la réflexion sur la situation concrète. Donc l'éthique, c'est toujours une réflexion sur la situation concrète. Si elle se limite à des phrases générales, à des lois générales, elle est à côté de la plaque.
Avant d'aller plus loin sur la troisième partie qui est la société, on en a déjà un peu parlé, mais on va rentrer plus dans le fond du problème. Je voudrais juste vous faire préciser un point. Vous parlez de vérité et là, vous venez de parler de véracité. Est-ce que ces deux thèmes sont totalement synonymes ?
Non. Merci de me donner la possibilité de préciser. Vérité, je le prends au sens d'une caractéristique d'une proposition, c'est-à-dire d'une phrase, d'une affirmation, d'une opinion. Donc, une phrase, une affirmation, philosophiquement parler, une proposition peut être vraie ou fausse. Donc, la vérité, c'est d'abord une caractéristique de certaines affirmations. Par contre, la véracité est une caractéristique d'une personne. Une personne peut être véridique ou non. Et au lieu de dire caractéristique d'une personne ou trait de caractère d'une personne, on peut aussi prendre l'ancien terme de la vertu. Donc la véracité, finalement, est une vertu. La vérité est une caractéristique d'une affirmation.
Donc la véracité, je dirais, si je peux me permettre, est plus importante au niveau éthique puisque ça engage la personne. Enfin, c'est pas plus important, non, c'est idiot ce que je dis, parce que c'est pas dans le même registre. Disons que vous avez parlé de vertu, et les protestants n'aiment pas trop la vertu. Alors, la véracité, est-ce qu'on peut la définir, ou est-ce qu'on peut définir la vertu autrement que par cette notion un peu moralisante ?
Oui. Les protestants n'ont pas aimé la notion de la vertu. Ça commence déjà avec Luther. Luther, parce qu'il voyait tout de suite ce danger des œuvres et qu'on se concentre sur ses propres œuvres, a parfois dit des choses négatives sur le concept même de vertu. Mais je pense qu'il faut, en tant que protestant, se réapproprier cette notion. Et je préfère de parler des traits de caractère, hein, pour éviter un peu ce mot ancien, vertu. Et en tant que protestant, nous sommes bien évidemment aussi appelés à, dans une démarche de sanctification, donc après avoir entendu la parole « tu es justifié, tu es dans la grâce », il nous reste quand même toute une vie chrétienne à mener. Et dans cette vie chrétienne à mener, il y a la possibilité de développer ou non des traits de caractère. Aussi dans le terme traditionnel, c'est la sanctification, mais là aussi c'est un vieux terme. Mais travailler sur sa personne, sur sa manière de vivre, c'est tout à fait un but aussi de l'éthique chrétienne. Et dans cette perspective-là, on peut aussi avoir un œil sur son rapport à la vérité. Est-ce que dans ma vie quotidienne, je me suis habitué à prononcer des petits mensonges juste pour me faciliter la vie? Ou est-ce que la valeur de la vérité est importante pour moi? Dans ce sens-là, c'est pas pour retomber dans les œuvres. Les protestants soulignent toujours la grâce ne dépend pas des œuvres. Nous sommes justifiés devant Dieu par la grâce, par un accueil de Dieu, tout simplement. Mais après, dans ma vie concrète, je peux quand même faire attention à ce que je fais et à ce que je dis. Et dans ce sens-là, je parle des vertus de la vérité et aussi de cette véracité.
Il nous reste 3 minutes seulement. pour voir le dernier point, mais le dernier point, on le connaît, c'est par rapport aux fake news. Bon, tout le monde sait qu'on est dans l'ère de la post-vérité, mais vous m'avez parlé, quand on a préparé cette émission, de la culture du bullshit. Alors, je voudrais que vous expliquiez aux auditeurs qu'est-ce que c'est que le bullshit et en quoi ça peut justement avoir un rapport avec la... avec l'éthique, avec parce que c'est quelque chose d'un peu trivial. Enfin, quand on parle du bullshit.
Oui, merci. Donc, ce troisième plan, le plan de la société, est très important parce que, en effet, nous vivons aujourd'hui dans une période où la valeur de la vérité n'est plus respectée. Donc, même pas le fait de mentir, parce que on a toujours menti en politique, etc. Les mensonges existent toujours et malheureusement, ils existeront toujours. Le problème aujourd'hui, c'est que la vérité elle-même n'a plus beaucoup d'estime et de poids. Et donc, je me suis référé à un ouvrage d'un philosophe anglo-saxon qui s'appelle Harry Frankfurt, comme la ville Francfort en Allemagne. Et il a écrit un tout petit bouquin de quelques pages, On Bullshit, donc à propos de bullshit. Il y a aussi une traduction française sous un autre titre qui m'échappe là actuellement. Et dans ce bouquin, il dit, le bullshit, c'est une manière de ne pas s'occuper de la question de la vérité. Donc parfois on dit le vrai, parfois non, ça n'intéresse personne. Et donc il dit, de cette manière, le bullshit est un ennemi plus important de la vérité que le mensonge.
Il faut peut-être préciser la traduction de bullshit, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est que le bullshit.
Bullshit, on pense tout de suite à, aux vaches, etc. Non, mais probablement, le bullshit, ça veut dire ne pas être préoccupé par la notion de la vérité, être dans l'ambigu. Donc, c'est une notion qu'il faut le traduire par dire... les termes français me montrent.
Des conneries. Donc,
raconter n'importe quoi. Ça, c'est à peu près le sens de bullshit. Ne pas se soucier de la vérité, dire n'importe quoi. Voilà. Et dans ce sens-là, dit-il, notre société est plus marquée par le bullshit que par la lutte entre vérité et mensonge. Et ça, me semble-t-il, est important. Et l'éthique chrétienne est appelée à ressouligner la valeur de la vérité.
Eh bien, je vous remercie donc Carsten Lehmkuhler. Je rappelle donc que vous avez écrit en 2019 Les vertus de la vérité et que vous nous promettez une prochaine parution et surtout une traduction en français parce que l'allemand c'est un peu compliqué. Alors, je remercie notre réalisatrice Léonie et puis les autres membres de l'équipe. Et puis, je dis au revoir à nos auditeurs et à bientôt.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.